C'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Énergie nucléaire, aéronautique, agroalimentaire, la France et la Chine resserrent leurs liens commerciaux. Les deux pays s'engagent aussi à préserver le multilatéralisme et à agir ensemble pour le climat et contre le terrorisme. Discussion fructueuse entre les deux Corées, une délégation nord-coréenne participera bien aux JO d'hiver en Corée du Sud et Séoul et Pyongyang vont engager des discussions militaires. Un peu plus de 3 ans après la mort de l'écologiste Rémi Freys sur le chantier du barrage de Sivens, le gendarme qui avait tiré une grenade offensive bénéficie d'un non-lieu. Pour le père du jeune militant, la justice est aux ordres. Sécurité routière, le gouvernement veut limiter la vitesse à 80 km/h sur les actes routiers secondaires et renforcer l'utilisation d'éthylotests anti-démarrage. Visite fructueuse pour Emmanuel Macron en Chine. Le président français et son homologue chinois, Xi Jinping, affichent une entente cordiale et une volonté de renforcer les échanges à haut niveau. Ils disent vouloir faire ensemble face aux défis comme le dérèglement climatique et le terrorisme. Et ils ont signé de nombreux accords commerciaux. Les précisions de Dominique André à Pékin.
Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur les accords signés au deuxième jour de sa visite. C'était l'une de ses priorités. Il est accompagné d'une 50aine de chefs d'entreprise. Areva, fleuron de l'industrie nucléaire française, a conclu un protocole d'accord pour construire une usine de retraitement en Chine pour 10 milliards de dollars. Ce texte met fin à 10 ans de discussions difficiles. Cela sauvera la filière, s'est enthousiasmé le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui accompagne le chef de l'État. Plus prudente, Areva attend que l'affaire soit signée cette année. Pour Airbus, l'accord renforce la capacité de l'usine d'assemblage à Tianjin en passant à 5 avions par mois dans un an, puis à 6 par mois début 2020. Les accords bilatéraux passés dans presque tous les domaines, y compris le retour de la viande de bœuf français en Chine, concernent aussi l'art avec le projet d'un centre Pompidou à Shanghai. Durant cette journée phare de sa visite d'État, Emmanuel Macron a imposé son style, décomplexé face à Xi Jinping, tout en se montrant courtois. Le président de la République a défendu sa vision d'une nouvelle ère qui s'ouvre entre la Chine et la France dans un cadre multilatéral. Xi Jinping lui a répondu en évoquant le respect mutuel et la concurrence loyale. Lors de sa déclaration à la presse, Emmanuel Macron a même évoqué les droits de l'homme, un sujet sur lequel les responsables politiques français se sont montrés trop silencieux ces dernières années, au grand désespoir des militants des droits humains en Chine.
Pour la première fois depuis 2 ans et après une année 2017 rythmée par les essais nucléaires et les tirs de missiles de Pyongyang, les deux Corées ont entamé des pourparlers officiels. Et première avancée concrète, la Corée du Nord va bien envoyer une délégation d'athlètes aux Jeux Olympiques d'hiver organisés en Corée du Sud le mois prochain. La correspondance de Frédéric Ojardias à Séoul.
En une seule journée, les deux Corées sont tombées d'accord pour envoyer une délégation nord-coréenne aux Jeux Olympiques et pour rétablir une ligne de communication militaire en mer Jaune. Pyongyang a aussi accepté l'offre de Séoul d'organiser d'autres pourparlers militaires, cette fois, des discussions qui viseront à trouver des moyens d'empêcher d'éventuels incidents de dégénérer en conflit armé. Enfin, la Corée du Sud a réussi à discuter de la reprise des réunions de familles séparées par la frontière. Cette détente, même relative, est accueilli avec soulagement en Corée du Sud. Lee Nae-hee est le directeur de Pharos, une agence de voyage spécialisée dans les sports d'hiver.
That's very meaningful for us. If North Korea join,
c'est très significatif pour nous. Si la Corée du Nord participe aux Jeux Olympiques et apaise ses relations avec le Sud pendant ces Jeux, ce sera un énorme événement. Chaque fois que je vais à l'étranger, mes partenaires commerciaux me disent qu'ils ont très peur du comportement de la Corée du Nord. Nous voulons montrer que notre pays est très sûr. La participation du Nord aux Jeux sera donc utile pour notre économie.
Séoul se dit même prêt à une levée partielle et temporaire des sanctions, en réalité des arrangements techniques avec les sanctions actuelles, afin d'autoriser la venue sur son territoire d'une délégation du Nord. Car en dépit de cette trêve olympique, les pressions sur le régime de Pyongyang vont continuer tant que la question nucléaire n'est pas résolue.
Le mouvement de grève s'étend dans l'industrie allemande. Dans la métallurgie, l'électronique ou la filière automobile, près de 60 000 salariés de 280 entreprises ont débrayé à l'appel du syndicat IG Metall. Le syndicat met la pression sur le patronat à l'approche des nouvelles négociations salariales. Il réclame jusqu'à 6% d'augmentation salariale et des aménagements du temps de travail. Le reportage de Cyril Sauvageau à Berlin.
6% de hausse de salaire, le patronat ne propose que 2%, une provocation pour les travailleurs des usines berlinoises de Siemens, BMW ou Otis. Ils étaient 1 000 000 ce matin dans la rue à l'appel du syndicat IG Metall. 6%, la demande n'est pas du tout injustifiée selon Thorsten, mécanicien chez BMW.
Il suffit de regarder les chiffres de la bourse pour voir que les entreprises allemandes vont bien, très bien même, et ce succès, elles le doivent aux salariés. Il est temps que nous ayons droit à une part du gâteau. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand ?
L'autre revendication très discutée d'IG Metall, c'est le passage à la semaine de 28 heures. La mesure serait limitée dans le temps et réservée à certains. Bernd est syndicaliste chez Siemens.
La société vieillit et plus en plus de salariés ont besoin de temps pour s'occuper de leurs parents. Cela devrait pouvoir choisir de réduire temporairement leur temps de travail.
Jusqu'ici, le patronat reste inflexible. De nouvelles négociations doivent débuter jeudi. Si rien ne bouge, IG Metall brandit la menace d'une grève illimitée. Ce serait une première depuis 15 ans.
La justice est aux ordres, clame le père de Rémi Fraisse. Les juges ont délivré une ordonnance de non-lieu en faveur du gendarme qui avait tiré une grenade offensive et causé la mort du jeune militant écologiste sur le chantier du barrage de Sivens en octobre 2014. Véronique Reberotte.
Oui, la décision des juges d'instruction est conforme aux réquisitions du parquet. Le 20 juin dernier, le procureur de la République de Toulouse s'était prononcé en faveur d'un non-lieu. Dans son réquisitoire, le magistrat concluait à un épouvantable accident, un enchaînement de faits dramatiques sans qu'aucune faute pénale ne puisse être retenu contre qui que ce soit. Les juges d'instruction estiment à leur tour qu'il n'y a pas de charge suffisante permettant de lancer une procédure pour violence volontaire ayant entraîné la mort ou homicide involontaire. En juin, le procureur avait eu des mots apaisants pour la famille Fraisse, présentant Rémi comme un jeune homme calme, pondéré, pacifique et totalement intégré. Depuis 3 ans dans cette affaire, personne n'a jamais été mis en examen. Le gendarme mobile qui a lancé la grenade offensive mortelle a été placé sous le statut de témoin assisté, ce qui fait dire aux avocats de la famille Fraisse que ce non-lieu était inévitable. Ce n'est pas réellement une surprise. Un enterrement judiciaire qui provoque la colère de Jean-Pierre Fraisse. Le père de Rémi Fraisse dénonce donc une justice aux ordres. La raison d'état de 2 gouvernements successifs a prévalu alors qu'il n'y avait aucune raison puisqu'il y a mort d'homme. L'un des avocats de la famille fait savoir ce soir qu'il va faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.
Véronique Reberotte. Gérard Collomb promet une réponse forte après l'agression de 2 policiers à Champigny-sur-Marne la nuit du jour de l'an. L'effectivité de la réponse pénale est une priorité, déclare le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui encore, des policiers se sont rassemblés devant leur commissariat à l'appel cette fois du syndicat Unité SGP Police. Ils dénoncent les agressions, Xavier Demagny, mais le ras-le-bol est plus général, vous l'avez constaté devant le commissariat de Créteil dans le Val-de-Marne.
Oui, dans les discussions, il y a évidemment les récentes violences contre des collègues en patrouille. Il y a le matériel défectueux, les procédures trop longues et puis on parle aussi du nombre de suicides, 50 l'an dernier dans la police. Mais aujourd'hui, ce qui scandalise le plus Olivier, un policier expérimenté dans le Val-de-Marne, c'est qu'il est obligé, dit-il, de renoncer.
C'est décourageant, le plus dur acte qu'on a en police, c'est gérer, comme je dis aux jeunes collègues, maintenant c'est gérer la frustration. C'est apprendre à ne plus faire, devoir renoncer. Pour préserver l'équipage, pour préserver les collèges, pour préserver les véhicules. On a envie, mais on ne peut pas se mettre en danger inutilement.
Beaucoup préfèrent ne pas s'exprimer au micro par discrétion, mais tous appellent à une fermeté judiciaire plus importante, à des peines exemplaires pour ceux qui s'en prennent aux policiers, pour sanctuariser, disent-ils, à nouveau leur fonction. Bruno dénonce, lui, l'impunité. Ce gardien de la paix travaille au tribunal de Créteil. Il est, lui aussi, confronté à la violence.
Nous sommes confrontés à ces problèmes-là dans le tribunal. Avant, c'était un peu sanctuarisé, le tribunal. Il y avait certaines limites, un certain respect. Maintenant, les limites, il n'y en a plus.
Quant à Aurélie, jeune enquêtrice de Créteil, elle pointe du doigt la pression et l'épuisement.
Les heures sup, on ne les compte plus. Voilà, on fait un sacrifice aussi sur notre vie perso tous les jours. Hein. C'est pas que quand on bosse 2 ou 3 jours la semaine, c'est tous les jours vraiment.
Le ministre de l'Intérieur aurait promis au syndicat la fin de la politique du chiffre. En plus d'une réponse exemplaire contre les agresseurs de policiers, Gérard Collomb doit, après ses vœux à la police nationale, recevoir demain les organisations syndicales.
Xavier Demagny. L'enseigne de chaussures André est reprise par Spartoo. Le site de vente en ligne s'engage à reprendre les 750 employés et tous les magasins sauf une boutique parisienne qui reste dans le giron de Vivarte. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Vivarte a engagé il y a plusieurs mois un plan de cession et de restructuration pour se recentrer sur ses marques phares comme La Halle, Minelli ou Carole. La sortie d'André du groupe Uverté est prévue pour mai. Dans quelles conditions ?
Alors sur les effectifs, il a été annoncé au syndicat que Spartoo s'engageait à reprendre l'intégralité des salariés, mais il n'y a pas d'engagement dans le temps. Rien n'empêche Spartoo de réduire les effectifs d'André dans un avenir plus ou moins proche. On ne sait pas encore non plus si les 120 magasins André conserveront leur nom ou pas. La marque fait partie de ce qui a été vendu, mais le repreneur peut ne pas l'utiliser. Enfin, le prix de vente non plus n'a pas été communiqué aux organisations syndicales. Possible qu'André ne coûte rien ou presque à Spartoo. En octobre, le PDG de Vivarte avait évoqué en comité d'entreprise la possibilité même qu'il faille mettre de l'argent sur la table pour qu'André soit vendable. Cela a déjà été le cas pour d'autres enseignes de Vivarte vendues précédemment, raconte Karim Cheboub, il est représentant CGT.
Ils ont déjà vendu une filiale pour l'euro symbolique où le groupe a mis aussi beaucoup d'argent, une vingtaine de millions d'euros. Ce qu'on appelle le démantèlement, c'est vraiment vendre à l'euro symbolique les filiales du groupe. C'est exactement la même chose pour Koukaï, dont on ne connaît pas le montant. Il semblerait que c'était aussi à l'euro symbolique.
Alors c'est au moment où les comptes de Vivarte seront présentés au syndicat au milieu de l'année qu'ils pourront constater peut-être le prix de vente d'André. Vivarte n'étant pas cotée en bourse, l'entreprise n'est pas obligée de rendre ses informations publiques et n'a donc pas non plus répondu à mes demandes. Elle confirme cependant qu'André ne va pas bien, ce qui sous-entend qu'il n'était pas possible de la vendre sans la reflouer. Alors de plus de 15 enseignes il y a un an, le groupe Vivarte n'en comptera plus que 5 après les ventes prévues. Pour la direction, c'était la seule solution pour que Vivarte soit de nouveau viable. Les syndicats craignent eux un démantèlement total et de nouveaux plans sociaux. En 2017, près de 500 salariés de La Halle aux chaussures auront été licenciés.
Marie Viennot, le groupe Pimki, qui envisageait de signer une rupture conventionnelle collective, y renonce finalement. 3 syndicats ont refusé de donner leur accord au projet de la direction. PSA, en revanche, compte bien recourir à ce nouveau dispositif introduit par la réforme du Code du travail. Le constructeur automobile prévoit de proposer une rupture conventionnelle collective à quelques 1300 salariés à Kim Kasmi.
Oui, même si elles devront se faire sur la base du volontariat, avec la rupture de convention collective, il y a de la part de PSA une vraie volonté de dégraisser ses effectifs, malgré des résultats très positifs, plus d'un milliard d'euros de bénéfices l'année dernière. Dans le détail, selon les syndicats, le groupe promet et prévoit 1250 mobilités externes sous la forme de congés reclassement, création d'entreprise ou encore 900 congés seniors, un dispositif qui permet de partir à la retraite plus tôt en gardant leur contrat de travail et une partie de leur salaire. Des mesures que dénonce la CGT, qui estime qu'elle signe la fin du CDI et annonce plus de précarité. En contrepartie, la direction de PSA promet plus de 1300 recrutements en CDI, ce que salue Brahim Atetmine, délégué central de Force ouvrière chez PSA.
Ce qui compte pour nous, c'est que les salariés trouvent leur compte. Alors aujourd'hui, les départs qui sont programmés, c'est des départs qui sont basés sur le volontariat. Il y a des compensations financières qui leur sont versées. Il y a des embauches en CDI pour des gens qui sont plutôt précarisés. On ne peut qu'être satisfait par rapport à ce qui est dit et à ce qui est fait.
Le projet final sera examiné en comité central d'entreprise le 19 janvier prochain pour une mise en œuvre normalement en février, car pour être définitivement validé, il devra obtenir plus de la moitié des votes des syndicats.
Merci Hakim Kasmi. Les ruptures conventionnelles collectives, c'est le thème du grain à moudre ce soir à 18h20. Tant pis si les mesures sont impopulaires, le gouvernement veut faire reculer le nombre de morts sur les routes. Il y en a eu 3477 en 2016. L'annonce la plus frappante, c'est l'abaissement de la limitation de vitesse sur les routes secondaires à double sens. Elle doit passer de 90 à 80 km/h. Les associations d'automobilistes ont déjà dit tout le mal qu'elles en pensaient. Mais ce plan comporte aussi des mesures ciblant l'alcoolémie au volant ou encore les jeunes conducteurs, Mélanie Juvé.
Oui, le Premier ministre Édouard Philippe est en train de s'exprimer en ce moment même. Il vient de déclarer au début de son allocution que seulement sont efficaces les mesures de rupture. Il cite comme exemple l'abaissement à 50 km/h en agglomération ou l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Des mesures qui ont été contestées par les Français dans le passé, mais nécessaires pour faire baisser la mortalité sur les routes, selon Édouard Philippe. C'est en ce sens qu'il vient d'officialiser la mesure phare de ce plan. Vous l'avez rappelé, l'abaissement à 10 km/h de la vitesse sur les routes secondaires. Elle devrait entrer en vigueur en juillet prochain. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de cibler toutes les causes de l'accidentalité routière. 17 autres mesures sont en train d'être dévoilées en ce moment. Le gouvernement devrait confirmer l'installation d'éthylotests anti-démarrage dans les véhicules des automobilistes pris en alcoolémie délictuelle, c'est-à-dire supérieur à 0,8 g par litre. Devraient être concernés aussi les récidivistes. En ce qui concerne les jeunes conducteurs, leur permis probatoire pourrait être rallongé d'une année pour obtenir l'intégralité des 12 points. Les sanctions également durcies contre l'usage du portable, c'est-à-dire que les personnes qui téléphonent au volant pourraient voir une suspension de leur permis sous certaines conditions. Alors avec ce plan, le gouvernement veut faire reculer le nombre de morts sur les routes qui est reparti à la hausse depuis 3 années consécutives. La France n'a plus connu de hausse aussi durable depuis 1972.
Mélanie Juvet et Édouard Philippe dit vouloir sauver une vie par jour. Puisque Najat Vallaud-Belkacem n'a pas voulu du poste, Stéphane Le Foll est prêt à relever le défi. Dans un entretien accordé au Maine Libre, le député socialiste de la Sarthe annonce sa candidature au poste de premier secrétaire du PS. L'ancien ministre de l'Agriculture pense pouvoir faire évoluer le parti qu'il qualifie aujourd'hui d'exsangue. L'affaire Weinstein n'était pas un feu de paille, on en a confirmation jour après jour, mais cette libération de la parole s'accompagne d'un débat qui semble ne pas vouloir prendre fin, lui non plus. Il y a les échanges incessants sur les réseaux sociaux, les tribunes successives dans les journaux, et aujourd'hui encore, Le Monde publie le texte d'un collectif de femmes. Elles approuvent la dénonciation des viols et des agressions sexuelles, elles s'opposent, en revanche, à ce féminisme qui exprime, selon elles, une haine des hommes. Bonsoir François-Pierre Noël.
Bonsoir Aurélie.
Les signataires de cette tribune, et parmi elles Catherine Deneuve, Elisabeth Lévy ou encore Brigitte Lahaye, considèrent que les hashtags MeToo et Balance ton port ont été détournés de leur but initial, à savoir dénoncer les agresseurs sexuels.
Oui, ce collectif de 100 femmes ne se reconnaît pas dans le mouvement féministe qui a suivi les hashtags Balance ton port et MeToo, devenu selon elle une campagne de délation pour placer certains hommes sur le même plan que des agresseurs sexuels sans qu'ils puissent se défendre. L'écrivain et psychanalyste Sarah Chiche, à l'origine de cette tribune, veut montrer qu'il existe une autre sorte de féminisme.
Il nous a paru tout à fait important qu'un autre type de solidarité se crée entre femmes pour faire entendre collectivement une autre parole. Une fois encore, nous reconnaissons tout à fait la parole des victimes qui veulent se faire entendre en tant que victimes. Il ne s'agit pas du tout de les faire taire de façon haineuse. Simplement, ce que nous souhaitons collectivement, c'est de faire entendre une autre parole. Il y a, au cours de la vie d'une femme, des accidents qui peuvent avoir lieu, des choses extrêmement graves, mais ce n'est pas parce que notre corps est atteint que notre dignité est atteinte. Et ces accidents de la vie, si durs soient-ils, ne doivent pas pour autant faire de nous des victimes perpétuelles.
Donc s'affranchir de cette idée que la femme est une personne faible et fragile, Sarah Chiche et les autres signataires espèrent aussi calmer le jeu sur ce qui a été appelé par plusieurs personnalités, comme Joe Star et Nicolas Bedos, la guerre des sexes entre les femmes et les hommes.
C'est peut-être une façon de proposer la paix, une forme de paix, plutôt, bien plutôt qu'une guerre des sexes. Non, de proposer une autre voie possible.
Alors, la voie de l'apaisement, pas vraiment depuis ce matin. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, de nombreuses femmes s'indignent contre cette tribune qu'elles jugent pour la plupart d'un autre temps.
Et comme pour illustrer la complexité de ce débat, la rédaction de la chaîne parlementaire Assemblée nationale a voté hier une motion de défiance à l'encontre des dirigeants de la chaîne. Les journalistes protestent contre la réintégration cette semaine du journaliste Frédéric Aziza à l'antenne. Il avait été suspendu en novembre dernier après la plainte d'une consoeur pour agression sexuelle, des faits remontant à 2014. Sur 26 votants, 25 journalistes estiment ne plus pouvoir faire confiance à Marie-Ève Malouine et Éric Moniaud pour gérer la chaîne parlementaire.
Mais selon eux, Frédéric Aziza ne devrait pas revenir à l'antenne tant que l'enquête judiciaire n'est pas terminée. Marie-Ève Malouine, la PDG de la chaîne, s'appuie elle sur les conclusions d'une enquête interne menée après la suspension du présentateur vedette. Selon elle, le geste de Frédéric Aziza, il aurait pincé les fesses de sa consoeur, ce geste donc a été sanctionné en 2014. Il a reçu un avertissement, l'entreprise n'a pas le droit de le sanctionner à nouveau pour les mêmes faits, dit-elle. Et elle ajoute que l'enquête n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Or, ces faits nouveaux, ils existent selon la Société des journalistes. François Chevret, son président.
En fait, on refuse complètement ce rapport puisqu'il y a d'autres journalistes qui nous ont déclaré qu'ils avaient témoigné auprès de l'enquêteur d'autres actes inappropriés de la même personne et on ne les retrouve absolument pas dans le rapport ou en tout cas dans la synthèse de 2 pages seulement puisqu'on a accès seulement à la synthèse du rapport qui fait seulement 2 pages alors qu'il y a eu 44 personnes auditionnées. le sentiment général, c'est vraiment, enfin, en tout cas dans la rédaction, voilà, les journalistes sont plutôt démobilisés. Parce qu'en fait, on a un bel outil, on a l'impression que c'est un gros gâchis et on a peur qu'en plus, toute cette affaire, et surtout de revoir cette personne-là à l'antenne, ça abîme l'image d'LCP alors qu'on sait qu'elle est bonne auprès du public.
En tout cas, l'affaire Aziza, dans le contexte que l'on connaît de dénonciation des violences faites aux femmes et cette motion de défiance votée par les journalistes, tombe très mal pour la PDG Marie-Ève Malouin. Son mandat arrive bientôt à expiration, elle est candidate à sa propre succession. Les auditions pour le poste auront lieu dans un mois devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale.
Lise Verbeek, la Saône-et-Loire est placée en vigilance orange inondation. Demain, attendez-vous à un temps instable avec des perturbations pluvieuses. Il fera 3 à 9 degrés le matin, 6 à 13 l'après-midi, jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée. Ce journal est terminé, il a été préparé avec Jean-François Charles Domergue.